Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, deux coups de cœur cinéma aujourd'hui. Le premier dans un instant consacré à Maria Rêve qui sortira le 28 septembre au cinéma. On aura le grand plaisir de recevoir dans une poignée de minutes Grégory Gadebois et Karine Viard qui seront avec nous. Et juste avant, les deux réalisateurs, Lauriane Escaffre et Yvonique Muller également vont nous rejoindre. En fin d'émission, deuxième coup de cœur ciné consacré au film Une belle course qui sort mercredi dans les salles. Christian Carion et la productrice du film seront avec nous pour en parler. Et puis on va parler évidemment des combattantes pour TF1, de La Maison d'en face pour M6 et du très beau téléfilm Touché réalisé par Alexandre Alamy. Bref, vous l'avez compris, c'est un beau sommaire qui vous attend aujourd'hui, chargé. Alors voici tout de suite notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler de Maria Rêve, c'est notre coup de cœur ciné. Ça sortira dans les salles le 28 septembre, c'est un film à ne pas rater. On les suit depuis longtemps, ces deux-là, je peux vous le dire. Depuis leur court-métrage Pile Poil qui nous avait beaucoup plu. Et bien là, c'est leur premier long-métrage qu'on va accompagner dans Chut, on écoute la télé. Ça s'appelle Maria Rêve. Lauriane Escaffe et Yvonique Muller sont nos invités aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous allez être rejoints dans un instant par Karine Viard et Grégory Gadebois. En plus, alors ça aussi, c'est un très très beau cadeau que vous soyez venus en équipe. Maria Rêve, c'est presque une fable poétique. Je définirais comme ça.
Tout à fait. Une fable poétique et romantique aussi, peut-être une comédie romantique, mais c'est une très bonne définition qui nous va très bien.
Ah ouais, moi j'achète.
Alors comment c'est venu et quelles sont les embûches que vous avez rencontrées? Parce que quand on fait un premier long, on sait que c'est jamais évident, on sait que ça prend du temps.
Tout à fait.
On sait qu'on se confronte à des problèmes de budget, plein de choses différentes, mais vous y êtes arrivé.
Ouais.
Et ça c'est vrai que quand moi j'ai vu la qualité de votre court-métrage, je me suis dit s'ils font un long un jour, on les accompagne, vraiment, parce que ça devrait être top.
Tout à fait. En fait, l'idée, elle est partie d'un personnage qui nous tenait à cœur, le personnage d'une femme de ménage. Moi, ma grand-mère est femme de ménage. Je l'accompagnais dans ses ménages quand j'étais plus petite et en vacances chez elle. Et j'ai toujours été surprise par la façon dont tu demandais d'être discrète, d'être comme une petite souris, de ne pas faire de bruit. Et moi, j'avais toujours eu l'idée de me dire, ah là, j'aimerais bien rendre visible l'invisible. Et on avait cette idée avec Ivo, idée qui t'a conquise assez vite, de ce personnage-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu le succès de Pile Poil. Et grâce au succès de Pile Poil, on a réussi à proposer cette idée de ce personnage de femme de ménage confrontée à l'école des beaux-arts qui va rentrer dans cet univers-là et qui a assez vite séduit un producteur, la boîte de prod Quad, et qui a aussi séduit Karine Viard et Grégory Gadebois. Donc on a eu un parcours semé d'embûches comme tout bon long métrage, mais finalement on a eu beaucoup de chance aussi.
En fait, il y a eu des embûches. On avait un directeur de prod qui à un moment nous a dit alors vous aurez tout eu hein, en termes d'embûches justement. Donc il y en a, oui, mais ce que nous on retient, j'avoue.
Les embûches, on peut le dire, c'est vrai qu'on a tourné en plein Covid, plein couvre-feu, en plein hiver. On a eu des changements de décors, on a eu des décors qui ont été abandonnés juste avant de tourner. Il a fallu qu'on réécrive le scénario, beaucoup de choses.
Mais je crois que les embûches, c'est le
motif.
Ouais, c'est le lot de chaque tournage, forcément.
On aurait presque été déçu si on n'avait pas eu d'embûche finalement. Ça aurait dit, mais mince.
Tout à fait d'accord, on se serait ennuyé.
Des producteurs exceptionnels, c'est quoi, de Nicolas Duval et Foucault Barré, qui nous ont aussi beaucoup préservés de beaucoup de choses et qui ont été des producteurs exceptionnels.
Bon, on va planter le décor ensemble,
oui.
De Maria qu'on va suivre dans ses aventures, dans cette quête d'elle-même. parce que c'est aussi ça, ça raconte l'histoire d'une femme qui se révèle, une femme un peu introvertie, qui va se révéler au fur et à mesure de cette histoire en rencontrant notamment Hubert.
Alors c'est Maria, c'est une femme de ménage donc qui est effectivement discrète, timide, réservée, qui est employée depuis 25 ans chez Madame Margoto. Et Madame Margoto meurt. Donc tout d'un coup, elle doit retrouver un nouveau travail et elle se retrouve embauchée à l'école des Beaux-Arts à Paris.
Donc tu es la directrice.
Tout à fait, je joue la directrice du personnel, voilà, une directrice du personnel pas très sympathique, mais bon. Et elle arrive dans cette école des Beaux-Arts et elle est tout de suite subjuguée par l'environnement très impressionnant de tous ces élèves en effusion, de toutes ces œuvres d'art, de tous ces bâtiments éclectiques. Et ça vient déjà, dès sa première entrée, la remuer. Et assez vite, elle fait la rencontre avec un étrange personnage, le gardien de l'école des Beaux-Arts incarné par Grégory Gadebois.
Et moi, j'ai le rôle de Monsieur Kaufmann, un professeur dans l'école des Beaux-Arts qui s'aime bien.
Il aime bien aussi. Madame Desnoyers, la responsable du personnel que je joue, l'aime bien.
Ils aiment bien se retrouver d'ailleurs de temps en temps, quand Hubert évidemment et Maria ne sont pas là pour les surprendre, évidemment. Et là, il y a une scène très très drôle entre vous deux, là, franchement. Vous nous avez fait beaucoup rire, en tout cas. Pour ceux qui iront voir le film, ils comprendront de quelle scène on parle, évidemment. Bon, quelle a été la scène la plus drôle à tourner pour vous dans ce film? Il y a dû y en avoir quand même.
Énormément. Moi, je dirais que c'est la scène avec les petits coquillages.
Ouais. Là, on a quand même eu, enfin, on a la chance d'avoir cette immense actrice et Karine Viard, et on a eu sur cette scène, on avait l'équipe de tournage avec nous, où tout d'un coup, on entendait des trucs comme ça, où t'avais les techniciens qui se retenaient de rire à plusieurs moments. Et là, quand il y a des choses comme ça qui se passent sur le plateau, tu te dis, ah, là, on tient un truc sympa, quoi.
Alors vous avez été entouré pour ce film, mais vous avez fait beaucoup de choses quand même, parce que je crois que vous avez écrit aussi, hein, l'écriture, c'est vous deux qui vous y êtes collés totalement.
Ouais, totalement, et on est un peu des acharnés de l'écriture, on est assez obsessionnels sur l'écriture, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, on sait que c'est énormément de travail, et on a eu des moments de découragement, et des moments de joie. L'écriture, c'est un long parcours, qu'on trouve difficile. Hein.
Très difficile, et je trouve, je me permets de le dire, pas reconnu aujourd'hui à sa juste valeur dans le cinéma français, mais les choses sont en train de changer un peu, et je crois que c'est génial.
Quand on est deux réalisateurs sur un film, qui plus est en couple, comment se répartit les tâches pour pas que ça déborde le soir quand on a terminé la journée de tournage?
Alors ça déborde le soir, mais alors après Yvonique ne s'arrête jamais, alors il faut le savoir. Ivo, il parle tout le temps au boulot. Moi je lui dis, tu m'en parles demain matin au boulot à 8h, donc j'arrive à arrêter des choses.
Surtout, ce qu'on voulait, c'est éviter que les acteurs ou l'équipe technique aient des directives différentes. Et donc on s'est dit, Lauriane parle avec les comédiens et moi je parle avec l'équipe technique. Après, au cours du tournage, ça s'est un peu mélangé, mais comme on avait beaucoup travaillé en amont et qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, on avait toujours un discours cohérent et on était toujours d'accord sur où on voulait amener les scènes et tout ça, donc voilà.
Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vrai qu'être à deux, ça soulage beaucoup, on trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout sur les épaules, on a toujours une personne à qui demander son avis. Et puis après, c'est un truc de fainéant un peu, parce qu'on travaille deux fois moins, en fait.
Alors, quand on tourne, on est à tête dans le guidon, évidemment. Et quand on monte, bah, pareil, on voit les images. On n'est pas forcément dans un cinéma pour les voir. Quand vous avez vu tous les deux votre premier film sur un grand écran pour la première fois, qu'est-ce qu'on ressent là, à ce moment-là?
Quand on le voit avec du public, c'est très émouvant. Parce que quand on le voit en salle de montage, qu'on l'a vu pour la 150e fois et tout, on sait plus très bien ce qu'on a fait.
Moi, dans la salle de montage, j'ai envie de dire, la seule chose que tu ressens, c'est du doute.
Du doute. Et tout d'un coup, on le présente au public et c'est une émotion vraiment énorme. Énorme. C'est très très fort, surtout quand on voit que le public réagit, que le public a l'air d'aimer. C'est bouleversant parce qu'on fait un film, on passe énormément de temps à l'écrire, à le réaliser, à essayer de le construire. Et c'est uniquement pour espérer que ça ait du retentissement auprès d'un public. Et là, quand on voit que le public réagit, a l'air d'aimer, est là, est présent et vous envoie cette espèce de vague d'amour que vous avez essayé de leur envoyer, bah, c'est bouleversant.
On va écouter la bande-annonce de Maria Rêve. Ça sort le 28 septembre au cinéma. Et dans un instant, Karine Viard et Grégory Gadebois, justement, nous rejoignent. Ils arrivent à nos côtés juste après la bande-annonce. Merci à tous les deux.
Merci mille fois de nous suivre et merci pour cette interview. Merci beaucoup.
Et le sol, il va se nettoyer tout seul?
Vous m'avez vu?
Non, je vous ai pas vu.
Est-ce que je peux vous prendre le seau? C'est pour une install.
En fait, c'est simple. Il faut accrocher un sexe sous les 5 fils.
Un quoi?
C'est quoi le concept?
Tu lui expliques?
Ah.
C'est joli, tous ces coquillages.
Allez, Maria Rêve, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. On continue à en parler après Yvonique et Lauriane qui étaient avec nous. Eh bien, nous avons la chance d'avoir Grégory Gadebois et Karine Viard qui sont nos invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va parler de Maria et Hubert. Évidemment, on a planté un peu le décor avec Yvonique et avec Lauriane. On découvre cette poésie. Moi, j'appelle ça vraiment un film qui est d'une poésie assez dingue. Qu'est-ce qui vous a plu à tous les deux? Qui vous a donné envie de vous embarquer auprès de Yvonique et Lauriane pour leur premier film, déjà. Même si Grégory les connaissait déjà avant pour le court-métrage Pile-Poil, dont on avait adoré d'ailleurs le thème.
C'est le scénario que j'ai trouvé super. J'aime bien leurs personnages, j'aime bien ce qui leur arrive, la manière dont ils les font vivre, enfin, voilà, c'est ça, c'est le scénario.
Karine ?
Bah, vous savez, moi, je les connaissais pas, j'avais vu Pile-Poil, par hasard. Et j'avais beaucoup apprécié cette petite pépite, comme ça, très amusante, très personnelle, très singulière. Et je reçois le scénario, je le lis d'une traite. Déjà, ça me renseigne beaucoup. C'est-à-dire, est-ce que ça m'intéresse suffisamment pour que j'ai envie de le lire d'une traite? Ça, je lis d'une traite. Et je trouve que c'est, bah, pareil que le court-métrage, charmant, pas vu, singulier, intelligent, délicat. Mais je voyais aucune raison de dire non, d'autant que mon partenaire était Grégory Gadebois, dont j'apprécie le grand talent et la délicatesse. Et je me dis, mais ça va être super de le rencontrer, ce gars-là, en plus du reste. Donc, il n'y avait aucune raison de refuser.
En tout cas, le binôme fonctionne super bien à l'écran. On y retrouve Maria, qui se retrouve embauchée, qui est agent d'entretien, qui se retrouve embauchée à l'École des Beaux-Arts. Et va faire donc la connaissance de Hubert. Et va se nouer un lien tout au long du film, bien évidemment, qui est gardien de l'école.
Voilà, qui est gardien de l'école et qui, lui, est comme un poisson dans l'eau dans cette école, puisque sa mère elle-même était gardienne. Donc, il appartient au mur presque, ce gars-là. Et il y est plutôt bien. Et arrive donc Maria, qui, elle, a travaillé essentiellement chez des particuliers comme femme de ménage, et qui, en fait, en rencontrant l'art des beaux-arts, donc c'est vraiment l'art en train de se faire, bah, va avoir un espèce de vent de liberté qui la traverse. Et qui va l'embarquer bien plus loin que ce qu'elle aurait imaginé.
C'est un parcours d'émancipation, ce film aussi, de Maria, un peu introvertie justement, qui va se libérer tout au long de cette histoire. On voit l'épanouissement d'une femme tout au long du film. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas, dans cette belle histoire. Grégory ?
Oui.
Ah, parce qu'on pourrait dire Maria vue par Grégory, tiens.
Bah, très vite, moi, Hubert, très vite, il est un petit peu tombé en... Il est tombé amoureux de Maria, et puis, mais je ne saurais pas expliquer, moi, en fait, je suis nul pour parler de ça. Mais oui, ça raconte la remise en question, mais d'une manière évidente et pas préméditée, et un espèce de se laisser aller, à vivre, quoi.
C'est ça qui est bien, on cesse ce temps dans ce film aussi. On ne cherche pas forcément à tout prix un rythme, on laisse ce temps vraiment, on voit défiler vraiment cette histoire un peu comme une fable, comme une poésie. Moi, j'ai vraiment ça ressenti.
Là où le charme opère, c'est qu'on est tout de suite de leur côté. On est tout de suite avec eux. Même les empêchements de Maria, au fond, on les connaît, on les a déjà vus. C'est ces gens qui sont bien mariés, mais un peu petitement. Voilà, tu dois pas demander à la vie d'avoir trop de bonheur, d'avoir trop d'émotions. C'est un petit bouillon, quoi, et c'est déjà pas mal. Et puis, d'un seul coup, elle est avec des étudiants aux Beaux-Arts, et eux, ils font n'importe quoi, et ils rêvent grand, et ils rêvent haut. Et ce souffle-là, en fait, elle l'a à l'intérieur d'elle, mais personne n'a jamais, comment dire, attisé la flamme. Et là, la flamme s'attise, et quelqu'un comme Hubert, c'est d'une certaine façon quelqu'un qui est assez bien dans sa peau, mais qui lui aussi, en rencontrant Maria, va se dire, mais... est-ce que mon existence de solitude, c'est le mieux que je mérite? Peut-être pas. Et donc, ce sont des gens qui se révèlent en se rencontrant aussi. Et là où c'est délicat, c'est qu'on n'est jamais dans le jugement et on est beaucoup dans l'émerveillement. Et ça, j'aime beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
Et Hubert, il n'est pas, par exemple, aussi à éteindre la flamme de l'autre. Souvent, les gens font ça, c'est-à-dire qu'ils éteignent la flamme de l'autre pour ne pas se poser la question de la leur.
Alors, il y a un personnage aussi clé. Dans l'émancipation, quand même, de Maria, c'est celui de Noé Habitat, que vous avez peut-être vu dans le formidable film de Charlène Favier qui s'appelle Slalom, que je vous conseille d'ailleurs si vous n'avez pas vu. Et Noé apporte aussi cette touche de drôlerie, aussi de fantaisie. Et je trouve qu'il y est pour beaucoup dans cette émancipation de Maria.
Bah absolument, parce que se noue une amitié entre elles deux, qui est très étonnante, puisqu'elle, ça pourrait vraiment être sa fille. Et que Noé Habitat, elle campe un personnage extrêmement libre. Sexuellement libre, artistiquement libre, libre de dire, de faire ce qu'elle veut. Et c'est tout l'inverse de Maria, qui est très impressionnée par cette jeune personne, qui a autant d'audace, qui ose autant. Et comme la gamine lui dit, mais toi aussi tu peux, viens avec moi, je t'embarque. Et elle se laisse faire Ouais, dans cette amitié, je pense qu'effectivement, le personnage de Noé, c'est une vraie émancipation pour Maria. Mais rien n'est convenu jamais. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est une comédie romantique. Mais en même temps, c'est une comédie romantique avec deux personnes qui comptent pas vraiment. C'est pas, on n'est pas flamboyant, on n'est pas bien habillé, on est des petites gens comme ça avec des petits destins. Mais finalement, on vibre tellement fort qu'en fait, ça devient une très très grande histoire magnifique, une grande histoire romantique. Mais ça part avec des toutes petites choses. C'est ça que j'adore.
Est-ce qu'il y a une scène particulière qui ressort là, que vous vous souviendrez longtemps, en tout cas, de ce tournage?
Eh ben moi, la scène qui reste, mais c'est une scène un peu dramatique, c'est que c'est une scène très drôle que je tourne avec Grégory, avec l'installation qu'on doit accrocher. Et je tourne cette scène-là qui est très drôle et que je trouve assez réussie, alors que j'apprends au téléphone 10 minutes avant que mon père vient de mourir. Bon, j'avais pas non plus des relations extrêmement intimes avec mon père, mais c'est quand même mon père. Et donc, à vie, cette scène-là est marquée pour moi. C'est-à-dire que t'apprends que ton père meurt et en même temps, the show must go on. Et au fond, ça m'a aussi vachement aidé, en fait, de devoir jouer une scène extrêmement drôle. Et c'était très étrange pour moi, parce que j'étais dans une émotion très forte.
Particulière.
Et en même temps, je jouais ça. Donc voilà, c'est ça qui me vient.
Ah. Grégory.
Ah, moi, c'est resté en photocopieuse, moi.
Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Grégory, merci Karine. Je vous invite à découvrir Maria Rêve. Ça sera le 28 septembre au cinéma. Un film de Lauriane Escafre et de Yvonique Muller à ne pas rater, bien évidemment. Dans lesquels ils jouent d'ailleurs, tous les deux, une scène très très drôle où vous les espionnez un petit peu. On entend surtout beaucoup de choses. Vous verrez dans le film une scène qui fait beaucoup rire, en tout cas. Merci à tous les deux. À bientôt.
Merci à bientôt.
À bientôt, merci.
T'es vraiment pas dégueu pour ton âge, hein. Tu feras un super modèle de nu.
Vous aimez votre métier, Maria?
En général, femme de ménage, c'est pas un métier qu'on choisit. On voit tout, mais on dit rien. Et ça, j'aime bien. Je me sens invisible, en fait.
Ce serait dommage de pas vous voir.
Petit déjeuner surprise. Dis donc, t'es belle.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Rien que toi, rapa, papa, papa. Sur les chemins qui mènent à toi, c'est face à ces filles qui ne comptent pas. Rien que toi, rien que toi, Si mes chansons en parlent un peu, c'est que je ne veux rien de douteux. Entre nous, entre nous, il n'y a que toi, je suis fou. Ma toute dernière composition, oh oh, celle de l'amour, oh oh, oh oh, mon seul amour, oh oh, oh oh, oh oh. Il n'y a que toi, je suis fou. Toi, rien que toi. Toi, rien que toi. Et moi. Toi, rien que toi. Toi, rien que toi. Toi, rien que toi. Et moi. Toi, rapam, papam. Rien que toi, rapam, papapapam. Toi, rapam, papam. Rien que toi, rapam, papapapam.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va donc dérouler ensemble le palmarès de cette édition 2022 du Festival de la Fiction de La Rochelle avec les réactions exclusives des lauréats. Avec, pour commencer, le prix du jury jeune qui a été attribué à la série de Prime Video Darknet sur mer qui a été tournée en plus du côté de la Charente-Maritime. La meilleure série francophone, quant à elle, a été attribuée à la série belge Attraction qu'on aura peut-être l'occasion de bientôt voir également sur TF1 avec au casting Lannick Gautry et Laura Sepoul. Sur la fiction européenne, la meilleure fiction européenne a été attribuée à Life and This in a Warehouse, une série anglaise qui a été donc primée pour cette édition, tandis que la meilleure série de moins de 20 minutes a été attribuée à Lost in California. Pour la meilleure série de 26 minutes, c'est OCS qui l'emporte avec la série 7e CL. Allez, le prix de la meilleure série 52 minutes a été attribué au lycée Toulouse Lautrec, cette nouvelle série pour TF1 créée par Fanny Henriette Berger qui est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Réaction à chaud à ce prix.
Très ému. Donc j'ai du mal à trouver mes mots à part des énormes merci. Je suis sincèrement reconnaissante qu'on m'ait permis de faire ça, de partager mon expérience et je m'estime très chanceuse d'avoir pu le faire et je suis très fière et Et j'ai une chance inouïe de connaître ces gamins et d'avoir pu faire ce projet. Et ça veut dire que les lignes bougent et qu'aujourd'hui, on peut faire des choses culottées, des choses qui ont du sens. Donc, je suis très, très, très heureuse.
En plus, c'est très personnel comme histoire.
Très personnel, effectivement. Donc, ça me touche profondément. Ça a été un long, long travail, beaucoup de concessions, beaucoup de travail. Mais ça valait le coup et voilà, je suis émue.
La série sera bientôt diffusée sur TF1. En attendant, on aura toute une partie de l'équipe qui viendra nous en parler au moment de la diffusion. Avec vous, bien sûr. On vous attend, Fanny.
Avec plaisir. Merci.
À très vite.
Merci beaucoup.
Et on continue avec le prix de la meilleure série Téléstar sur Jeux Concours, qui a été attribué à la série Mensonge avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducré. Une série à découvrir encore si vous ne l'avez pas encore vue. Le prix du meilleur scénario, quant à lui, a été attribué à M6 et pour L'Homme de nos vies, la série avec Jonathan Zakaï, Odile Wilmain, Elena Noguera, Flore Bonaventura ou encore Elodie Frégé. Allez, petite réaction avec la lauréate du prix de la meilleure réalisatrice qui a été attribuée à Afzia Herzi pour La Cour. Afzia, réaction?
Très émue, trop contente, trop fière. Mon premier film télé, c'était très dur parce que les conditions en télé sont pas les mêmes qu'au cinéma. En plus avec des enfants, donc c'était très très compliqué. Mais beaucoup de bonheur, donc je suis très très fière, vraiment, grande fierté.
T'avais été aussi primée au Festival d'Angoulême en plus. C'est à doublé gagnant finalement.
Ça, à la mise en scène. Et d'ailleurs, tu m'avais interviewé, non? Tu vois? Donc oui, donc je suis trop fière. Franchement, c'est dur hein, de réaliser. C'est pas facile, c'est beaucoup de doutes. En même temps, c'est passionnant. Parce que sinon, on le ferait pas. Hein. Mais je suis très heureuse. Franchement, c'est une belle récompense parce que c'était pas un projet facile à l'écrit. Et je suis contente que ça ait plu au jury.
On découvrira La Cour bientôt, en tout cas sur Arte.
Oui, le 30 septembre.
Et ben voilà, le rendez-vous est pris, c'est donc la semaine prochaine.
Oui, et il y a eu meilleur espoir pour la jeune interprète Lucie Loss-Bercé qui joue le rôle principal, voilà, et qui a 13 ans.
Merci Abdia.
Merci beaucoup.
Et le prix du meilleur jeune espoir masculin est attribué à Vassili Schneider pour l'histoire d'Annette Zellman. Vassili est avec nous, réaction.
Alors je suis énormément touché et ému, je m'y attendais pas du tout et ça me fait vachement plaisir pour le film. C'est un prix que je partage vraiment avec tout le monde parce que j'aurais pas pu gagner ce prix sans Philippe Leguet qui m'a extrêmement bien dirigé, sans mes partenaires de jeu qui étaient incroyables et sans une monteuse qui a sélectionné le meilleur de moi-même.
Alors, tu partages l'affiche avec Ilona Bachelier, oui. Tu y joues Jean dans ce film. Tu viendras nous en parler d'ailleurs au moment de la diffusion de ce magnifique film. Tu le dédies à qui ce prix aujourd'hui?
Alors, je le dédie à la famille Zellman, d'abord Annette Zellman qui a vécu ce drame et Michel Zellman qui est toujours en vie aujourd'hui et qui, j'espère, verra le film.
Merci beaucoup Vassili et à très bientôt.
Merci à vous.
Et le prix d'interprétation féminine a été attribué à un duo qu'on a découvert dans La Vie devant toi, un magnifique téléfilm que vous verrez bientôt sur France 2 avec Zoé Errant et Mayra Schmitt, qui sont avec nous. Réaction à chaud, les filles.
Eh ben, on s'y attendait pas, on est très contentes de l'avoir gagné à deux en plus, c'est encore plus beau. On pense à toute l'équipe, on est super contentes, voilà.
Ben voilà, pareil, hein. Moi je sais qu'on on pouvait pas rêver mieux que de le gagner toutes les deux, parce qu'effectivement on a pu s'appuyer l'une sur l'autre tout le long du tournage avec toutes les séquences qu'on avait ensemble et que... je sais pas, on a réussi à créer ce couple-là qui finalement marche bien et voilà quoi. Moi je me voyais pas gagner quoi que ce soit sans Mayra.
Vous êtes épaulé tout le long de l'aventure, hein, je crois.
Ouais, avant, pendant le casting, on s'est épaulé déjà et sans se connaître et puis pendant et après et encore aujourd'hui, c'est vraiment la fin du travail et on est très fiers.
Oui,
on est très très fiers.
Eh bien, écoute, il sera diffusé bientôt sur France 2. Ça s'appelle La Vie devant toi. Vous revenez. Je vous invite en tout cas à venir présenter ce très beau téléfilm au moment de la diffusion. Les filles, et encore bravo. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Et le prix d'interprétation masculine a été attribué à Nemo Schiffman pour le très beau film Maman ne me laisse pas m'endormir. Nemo, réaction à chaud.
Bah, je suis un peu dans tous mes états. Je pensais pas même que j'étais éligible dans cette catégorie. Du coup, une fois que Le meilleur espoir est passé, que c'était Vassili en plus que j'adore, j'étais trop content pour lui. Mais j'avoue que quand j'ai entendu mon nom, c'était lunaire. J'ai pas compris ce qui se passait, mais je suis hyper fier. C'est un film hyper important, c'est un rôle hyper important pour moi. Je peux pleurer rien que d'en reparler. Mais je suis hyper fier. C'est un très très beau cadeau que me fait le jury ce soir et je m'en souviendrai très longtemps.
C'est l'histoire d'une maman et de son fils qui va rien lâcher, jusqu'au bout pour l'empêcher de sombrer. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, évidemment, en plus aussi. Donc ça crée encore en plus une responsabilité plus forte.
Bah complètement, ouais. Le film, au début, je suis arrivé comme un acteur qui allait jouer un rôle. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était pas de ça qu'il s'agissait, qu'on faisait un biopic, mais d'une personne pas connue, d'une personne que certaines personnes connaissent. Et du coup, on a juste envie de rendre hommage et justice à cette personne et auprès des gens qui l'ont aimé, sa famille, ses amis, ses amours... Et du coup, ouais, ça a été un tournage très, très, très intense. Joseph était vachement là avec nous, avec moi. Ouais, c'était un peu mystique. Mais je pense que ça se représentera pas deux fois dans ma vie un rôle comme ça. Donc je suis trop, trop fier en plus d'être récompensé pour ce rôle.
Maman ne me laisse pas m'endormir. C'est bientôt sur France 2 aux côtés de Gwendoline Amon notamment et Michael Youn. Merci à toi.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Et le prix de la meilleure musique, quant à elle, a été attribué à Audrey Ismaël et Olivier Courcier pour la série de France 2 Vortex. Et le prix du meilleur téléfilm, c'est tellement mérité puisqu'il nous a vraiment touchés. Alexandra Lamy, ta première réalisation primée au Festival de La Rochelle comme meilleur téléfilm, c'est la plus belle des récompenses.
Ah ouais, c'est la plus belle des récompenses. On en avait déjà des belles avec le public, quand on l'amenait dans les projections, avec les associations, avec les lycées, où c'est un film qui nous permet effectivement parfois de gagner du temps et de pouvoir faire des échanges, de pouvoir faire de la prévention sur la violence. Et donc voilà, c'est un film important. Sandrine Bonner qui m'a remis le prix, avec qui j'ai fait son premier film, qui a eu des mots tellement extraordinaires pour ce film. Et c'est vrai, on va pas changer le monde, mais parfois il y a des films comme ça qui peuvent être utiles et qui permettent voilà, de pouvoir échanger. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis voilà, c'est mon premier prix en tant que réalisatrice, enfin, surtout de meilleur film. Quoi. C'est merveilleux, je suis tellement touchée, je suis hyper émue, je sais pas quoi dire. Et puis c'est surtout aussi meilleur film, c'est ça que j'adore. Et ce que j'aime aussi, c'est que justement, c'est toute une équipe. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est Quentin Zution avec sa BD, formidable. C'est Philippe Bouffard qui m'a appelé un jour le producteur pour me proposer de le réaliser. C'est toutes mes merveilleuses actrices, Mélanie Douté, merveilleuse actrice, Claudia Tagbo, Chloé Joannet, Elsa Lepoivre, Andréa Bescon, toutes celles et ceux qui ont participé à ce film parce que c'est ça. Et toute une équipe technique qui m'ont accompagnée, qui m'ont entourée. Donc vraiment, que du bonheur.
C'est un alignement des planètes, cette aventure.
Ouais. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Et en plus ici à La Rochelle, dans cette ville merveilleuse que j'adore. En plus aujourd'hui, il faisait tellement beau, tout était magnifique. Enfin, manger un super plateau de fruits de mer, je me suis régalée.
Bon, jeudi en tout cas, c'est sur TF1, c'est à 21h10. Et tu reviens tout à l'heure dans Chez T'en Écoute la télé avec quasiment toute ton équipe. On va parler de ce magnifique film avec Mélanie Douté, Chloé Joannet. Tout le monde sera là. Tu reviens avec Vanessa F. Secaldi aussi. Et il y aura plein de beau monde. Merci à toi et à tout à l'heure.
Merci à vous. À tout à l'heure. Merci.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Et c'est l'heure du bilan pour cette nouvelle édition 2022 du Festival de la Fiction avec Stéphane Strano, le président du festival, qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, comment vas-tu Alain?
Ça va très très bien, un peu rincé, je t'avoue, on a passé un festival formidable comme d'habitude. Et t'es venu accompagner ta directrice générale, Pauline Herteau. Bonjour Pauline.
Bonjour Alain, comment ça va?
Ça va très très bien, franchement, on s'est amusé comme des dingues. Et je crois que franchement le festival a été à la hauteur de tes attentes, mon cher Stéphane, il me semble en tout cas.
Je te confirme qu'avec Pauline on est ravis de cette édition 2022 parce qu'on pense qu'on a explosé tous nos objectifs et atteint des chiffres qu'on n'a jamais atteints d'histoire de festival. C'est Isabelle Adjani qui, parlant du Festival de la Fiction de La Rochelle, disait que c'était un festival mythique. Et je crois qu'on a envie de suivre cette feuille de route qu'elle nous donne à travers ce qu'elle représente pour la France et pour le monde entier.
En tout cas, c'est un sacré bilan, Stéphane, des temps forts avec la venue d'Isabelle Adjani, avec la dernière venue de l'équipe de Plus belle la vie, quasiment complet, avec plus de 20 acteurs qui étaient là, c'était incroyable.
Mais quelle journée, mais j'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu de cette journée, parce que tu sais que j'étais affairé à d'autres choses dans cette grande journée, puisqu'on était en train de voir se constituer, se dessiner le palmarès avec toute une après-midi de réflexion. Mais est-ce que toi tu peux nous parler de ce que tu as ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as pu vivre avant à La Rochelle?
Alors pour cette journée de samedi, tu veux dire?
Exactement.
Cette journée de samedi, elle a juste été incroyable. Elle a démarré avec 4 séances de dédicaces par celle de Demain nous appartient devant une foule en délire. Plus de 1000 personnes attendaient devant la Brasserie des Dames. Et puis cette convention à 14h30 à la Coursive qui était juste dingue. Stéphane, on a vécu un moment incroyable avec l'équipe de Plus belle la vie qui a été à son arrivée longuement applaudie pendant plus de 20 minutes avec une standing ovation, avec des acteurs au bord des larmes, avec un public complètement conquis. On se demande comment aujourd'hui France Télévisions a pu, en tout cas, prendre cette décision-là quand on voit l'amour du public pour cette série.
Bon, écoute, si tu as bien écouté le grand débat, tu vas avoir de la fiction, tu peux raconter partout autour de toi qu'il va y avoir beaucoup de fiction française, qu'il y aura de nouvelles quotidiennes qui vont les captiver très bientôt et qu'on va repartir avec une énergie comme tu l'as jamais imaginé en télévision avec la fiction. Donc je rassure ici tout le monde et je dis que si cette année c'est une année historique de ce point de vue-là avec ce samedi extraordinaire, on va faire au moins 3 fois mieux l'année prochaine.
Écoute, ça promet. Le rendez-vous est pris du 12 au 17 septembre 2023. Stéphane, il avait été évoqué un hors-saison. Est-ce qu'on peut imaginer quelques rendez-vous en tout cas ou quelques tournées fiction? Pourquoi pas en partenariat d'ailleurs avec Chute en écoute la télé, mais est-ce qu'on peut imaginer quelques petites choses qui se feront dans l'année?
On l'a dit, hein, c'est maintenant le festival, c'est ce soir encore, et c'est toute la semaine, c'est toute l'année. On va faire tourner fiction, on va le mettre en place, on a été freiné lourdement par la crise Covid, mais on va repartir et puis évidemment, on va construire avec rigueur une édition hors saison.
On attend avec impatience pour le printemps, peut-être 2023, ou ça sera plutôt l'année d'après?
Ce sera plutôt au moment où on trouvera le temps opportun pour ne déranger personne, pour que ce soit une date qui convienne à tout le monde. Parce que tu sais bien qu'on ne construit pas un événement comme celui-là sans rassembler l'amitié et la bienveillance de beaucoup de gens autour de nous. Et notre intérêt est de trouver un accord qui fasse que, comme c'est cette semaine, le festival plaît à tout le monde, au grand public, aux vedettes qui viennent, aux professionnels qui viennent en nombre et on a battu des records cette année avec plus de 2600 accrédités professionnels.
Et c'était encore une semaine incroyable. Merci en tout cas Stéphane pour ce petit mot de la fin et ce palmarès assez incroyable. On va dérouler maintenant nos coups de cœur télé de cette semaine avec le film primé Touché, dont on va parler très largement, évidemment, puisqu'on va recevoir Alexandra Lamy, on va recevoir Claudia Tagbo, Mélanie Douté, tout le monde va être là pour fêter ensemble, évidemment, ce prix et surtout ce film. Ce film, comme dirait Sandrine Bonner, ce film utile qui sera diffusé jeudi soir sur TF1. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Et je vais terminer cette spécial festival avec tous les remerciements. Déjà, remerciements à toutes les équipes du festival de la fiction télé, Apolline Ertaud, Stéphane Strano. Je pense évidemment à Carla, mais je pense aussi à Jérémy, à Magali, à Amélie. Je pense aussi à Sandra, tous ceux qui nous ont accompagnés au niveau des attachés de presse, évidemment, et qui ont fait que notre travail a été facilité tout au long de cette semaine. Ceux qui ont largement contribué aussi à faciliter notre travail tout au long de la semaine, c'est évidemment nos deux partenaires, la Brasserie des Dames, qui nous a accueillis pour ces deux émissions exceptionnelles en direct que nous avons vécues, et puis également l'Odalis, l'équipe de l'Odalis Vacances, l'archipel de La Rochelle, avec Marie-Ja, justement, que j'embrasse, voilà, si elle nous écoute. En tout cas, on a passé voilà, un séjour, même si on n'a pas eu trop de profiter des chambres, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on a été beaucoup sur le terrain, en tout cas avec les artistes, ça c'est une certitude, mais merci beaucoup en tout cas pour nous avoir facilité la vie pendant toute cette semaine. J'en profite aussi pour remercier évidemment tous les attachés de presse des chaînes de télé qui nous ont également facilité énormément les choses. Merci à toutes les équipes de TF1, je pense à Catherine, je pense à Stéphane, je pense à Hermine aussi, à Laura et toute l'équipe, hein, de la chaîne, à France 2 avec évidemment toutes les équipes aussi des attachés de presse avec Kevin, Stéphanie, Sabine, Isabelle et Sophie aussi bien sûr, que l'on n'oublie pas, pour France Télévisions. Merci également à toutes les équipes d'M6, à Sophie et à Florence qui ont été extraordinaires. Merci aux équipes d'Amazon, à Isabelle d'OCS également. Voilà, j'espère que j'en oublie pas trop, mais en tout cas, je tenais absolument à vous remercier pour évidemment nous avoir facilité l'accès aux artistes que vous allez découvrir dans les prochaines semaines grâce à toutes ces personnes. J'en profite aussi pour remercier la technique, LNFM et Vogue Radio pour la retransmission des émissions qui ont été donc faites pendant le festival, que vous pouvez réécouter d'ailleurs sur notre site onécoutelatélé.com. Merci vraiment voilà, à Sébastien, à Bertrand, à Christophe qui étaient en studio et qui ont pu permettre cette retransmission exceptionnelle. Et puis enfin, dernier merci évidemment à tous les artistes qui se sont prêtés au jeu. Ils sont tellement nombreux qu'il est impossible d'en faire la liste. Et on a une pensée évidemment particulière pour toute l'équipe de Plus Belle la Vie qui a pris son dernier bain de foule à La Rochelle, avec qui nous avons passé un samedi très très fort en émotion. Voilà donc pour cette édition du Festival de la Fiction Télé 2022. La prochaine, on vous le disait un instant avec Stéphane Strano, ça sera du 12 au 17 septembre. Et quant à nous, eh bien, on va passer tout de suite maintenant nos coups de cœur télé de cette semaine. C'est parti.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va parler des combattantes. Ça arrive ce soir sur TF1 pour 8x52 minutes, avec les deux premiers épisodes. C'est la fiction événement de cette rentrée. On est très heureux de recevoir la productrice avec nous, Iris Bucher. Bonjour Iris.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'être une fidèle aussi de l'émission. On a eu l'occasion de savoir pour le Bazar de la Charité. Et effectivement, ça germait un peu l'idée quand même de refaire une grande fiction comme ça, qui est à la fois ancrée dans l'histoire. C'est des petites histoires dans la grande histoire. Bazar de la Charité, c'était déjà le cas. Et les combattantes, on va suivre ce parcours de quatre femmes assez incroyables pendant la guerre 14-18.
Tout à fait. L'idée, c'était de reprendre ce récit de destin de femmes à des moments clés de l'histoire de France. On avait très envie aussi de retrouver nos trois héroïnes du bazar, Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie de Bonnat. Et au moment du développement des combattantes, il y avait un personnage qui prenait de plus en plus de place, qui nous intéressait de plus en plus, qui est Caroline, à la tête, un peu malgré elle, d'une entreprise de construction de voitures, parce que son mari est parti au front. Et ce personnage a tellement pris d'ampleur qu'on en a véritablement fait une quatrième héroïne, qui est maintenant interprétée par Sophia Essaïdi, qui a donc rejoint la petite troupe. Les trois autres personnages sont des femmes qui ont des rôles clés dans la guerre, qui d'ailleurs à cette époque-là avaient des rôles clés dont on parle très peu, et c'était le but aussi de cette série, de combler cette lacune du rôle de la femme, parce qu'on en parle trop peu. Les infirmières notamment, c'est Camille Lou qui joue le rôle d'une infirmière. Les prostituées, ce qu'on appelait la chair à canon, qui travaillaient près du front pour le moral des troupes. Et le quatrième personnage, qui est interprété par Julie de Bonnat, une religieuse. Les religieuses qui aussi avaient un rôle très important, parce qu'il y a beaucoup de couvents qui ont été réquisitionnés par l'état-major pour devenir des hôpitaux de guerre. Et elle est la mère supérieure d'un de ces hôpitaux-là près du front de l'Est.
Alors Il y a une fidélité aussi de l'équipe, puisque c'est Alexandre Laurent qui est également aux manettes de cette fiction. C'est toujours un challenge assez incroyable. Déjà, le bazar de la charité, c'était fiction tout en costume et tout. On sait le défi que ça peut représenter. Et là, du coup, on se rebaigne dedans. Hein. C'est reparti, évidemment, en série historique. C'est pas la plus facile des fictions à monter, ce genre de projet, quand même.
C'est jamais facile, mais facile n'est pas intéressant, donc je préfère compliqué. C'est un vrai challenge de se dire, on va faire revivre cette guerre incroyable. Nous, on fait la guerre de mouvement, qui est le tout début de la guerre de 14, en septembre 1914, où les Allemands et les Français se retrouvent littéralement nez à nez et se battent avec leurs armes, d'homme à homme. C'est pas encore la guerre des tranchées qui s'installe quelques mois plus tard, en novembre. Alors, le challenge de ce genre de production, c'est avant tout d'être, j'appelle ça toujours vraisemblable. On n'essaie pas de recréer à 100% la réalité, parce que dans ce cas-là, on ferait du documentaire. Mais ce qui me tenait très à cœur, c'est d'avoir un récit vraisemblable et d'être irréprochable sur la réalité historique au niveau de, notamment, les costumes, les armes. On a donc cet endroit, l'hôpital, où on reçoit beaucoup de soldats blessés. On avait une femme médecin spécialisée dans la médecine de guerre et de crise qui aidait Tom Leb, qui joue le médecin-major, et donc Camille Lou, l'infirmière, à avoir les bons gestes pour être dans cette véracité-là du récit. Évidemment, tout ce qu'on raconte par ailleurs, c'est de la fiction, c'est des destins de femmes qui ont été inventés de toutes pièces, mais quand même inspirés de femmes qui ont existé. Et moi, ça me porte, ça m'emballe. J'aime ce genre de production parce que vous êtes obligé de vous réinventer quotidiennement. Évidemment, aux côtés d'Alexandre Laurent, le réalisateur, avec qui j'ai donc fait déjà 3 séries maintenant. On s'entend extrêmement bien, on se complète. Il me dit toujours, on est complémentaires, et c'est tout à fait ça. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, avec l'équipe de TF1 aussi, qui nous ont suivis sur cette incroyable aventure, avec une ambition financière aussi très très élevée. Et j'espère que le public sera au rendez-vous, parce que nous, on a tout donné.
Les combattantes, c'est ce soir sur TF1. On va écouter un petit extrait, Iris. Et juste après, on va revenir avec Julie Debona, justement, qui va nous parler de son rôle. Et toutes les semaines, on va mettre une de ces femmes à l'honneur dans l'émission. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de chaque personnage qui vont venir vous accompagner pendant 4 lundis. Dernière petite question. Et quand on a présenté ensemble le Bazar de la Charité, ça commençait à être un peu dans l'errant, vous y pensiez. Est-ce que là, du coup, vous avez déjà une petite idée pour une prochaine série à grand spectacle comme ça, d'ici peut-être 2-3 ans?
La réponse est oui. Oui. Oui, on a très envie de faire un triptyque, une œuvre en 3 parties, le Bazar de la Charité, les combattantes, et, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus à l'heure qu'il est.
Il y aura donc une autre aventure, une 3e aventure qui sera proposée d'ici quelques mois et dont on entendra parler évidemment. Merci beaucoup Iris.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples.
Tous les hommes sont mobilisés et la guerre est partie pour durer.
Les Allemands !
Vous voulez faire quoi à côté de la ligne de front ?
Je viens travailler. J'ai besoin de vous.
Je suis sûre qu'ensemble on va faire de grandes choses.
Inédit, Les Combattantes, la série événement de la rentrée sur TF1.
Allez, merci à Iris Bûcher, et puis on va parler évidemment des combattantes. On va continuer avec Julie Debona qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Julie.
Bonjour Alain.
Alors toi t'es partout cette semaine, puisqu'on a la chance de t'avoir ce soir dans Les Combattantes pour les 2 premiers épisodes et demain soir sur M6 dans La Maison d'en Face. Et tu vas faire le lien justement, puisque dans un instant Lionel Bahut, le réalisateur de La Maison d'en Face, va aussi nous rejoindre. On va commencer par parler des combattantes ensemble, cette fiction événement qui débarque ce soir sur TF1, où tu y joues le rôle d'une mère supérieure, s'il te plaît. Prénommée Agnès ?
Mère Agnès, s'il vous plaît.
Mère Agnès, raconte-nous déjà comment t'es arrivée dans cette aventure qui se continue, je crois, avec vraiment la production depuis Secret d'Élise, le Bazar de la Charité. et cette nouvelle aventure avec les combattantes avec la même production.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression d'être en famille avec mon réalisateur Alexandre Laurent, que je connais depuis Le Secret d'Élise, et qui est la même productrice, Iris Boucher. C'est vrai que c'est une histoire qui date depuis 2015 et j'ai entièrement confiance en eux. C'est toujours des aventures de dingue. Alexandre Laurent, il me dirige, il m'amène toujours dans des endroits que j'avais pas explorés avant. Il me fait sortir de ma zone de confort et il m'amène dans des personnages merveilleux. Au début, j'ai toujours très peur parce que c'est toujours des grands challenges pour moi. Et là, cette fois-ci, c'était le challenge d'être crédible dans une mère supérieure du couvent de Saint-Paulin pendant la Première Guerre mondiale.
Donc là, oui, ça tournait en plus d'un vrai couvent. Enfin, il y a eu plusieurs couvents, je crois, qui ont servi pour le tournage.
Tout à fait, plusieurs couvents. L'extérieur du couvent, c'est dans les Vosges. Et le couvent à l'intérieur, c'est dans les Hauts-de-France.
Et donc, Mère Agnès doit faire face à l'arrivée massive de blessés au couvent qui sert d'hôpital pendant cette Première Guerre mondiale. Et évidemment, Mère Agnès fait partie du portrait de ces quatre femmes qui sont à l'honneur dans cette série, puisque c'est une série où vraiment les femmes sont à l'honneur.
Tout à fait. Mère Agnès, c'est la mère supérieure de ce couvent et qui est complètement déstabilisée par l'arrivée de... son couvent est pris d'assaut par l'armée et les blessés de guerre, donc elle se transforme en hôpital de fortune. Donc c'est vrai que c'est déstabilisant pour elle. Elle voit la guerre s'infiltrer chez elle, alors que tout était calme et rigueur avant. Là, d'un coup, c'est le chaos qui rentre chez elle. C'est déjà un personnage qui, en début de série, est un peu ébranlé par les horreurs humaines.
Oui, parce qu'il y a l'horreur humaine, et puis quand on fait ce vœu-là face à Dieu, il y a de quoi se poser 1000 questions.
Ouais, c'est ça.
On voit toutes ces horreurs.
Dès le premier épisode, sa foi est remise en cause parce qu'il y a une personne qui lui est très chère qui va mourir, tuée par les soldats, dans une scène complètement atroce de la guerre. Et là, sa foi a été branlée. Mais bon, ça se comprend, hein, je pense. Et donc, on part avec un personnage, c'est une des quatre héroïnes. Les autres sont vraiment sur le terrain. Et elle, c'est le côté plus spirituel de l'âme humaine, de la foi. Elle va se poser des questions plutôt métaphysiques. Et pourquoi cette guerre ?
Et puis avec ce lien qu'elle va créer aussi avec le personnage de Camille Lou, qu'elle va prendre sous son aile, en quelque sorte.
Alors, c'est plus compliqué que ça.
Ça va l'être au fur et à mesure, mais là, on voit juste les deux premiers, attention.
Voilà, dans les premiers, elle l'accueille, très bien, voilà, une jeune infirmière. Elle découvre qu'elle est jeune infirmière, très douée, donc ils vont avoir besoin d'elle. Donc elle l'accueille dans son couvent, parce que de toute façon, elle n'a pas le choix, elle accueille tout le monde comme on peut. Et après, elle va se dire, mais qui est cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a beaucoup de suspense, de suspicion. Et ça,
c'est... Le personnage de Camille cache beaucoup de secrets. Voilà. Beaucoup de secrets.
Donc Mère Agnès, ça ne va pas lui plaire, parce qu'elle est droite dans ce... Voilà. Mais non, ça va... Elle va se remettre en cause dans plein de ses convictions. Elle va devenir moins rigide et s'ouvrir à cette Camille et à toute son énergie féministe.
La maison d'en face, on va en parler aussi. C'est demain soir sur M6, là aussi, tu y joues le rôle de Eve, qui débarque dans une zone pavillonnaire qui n'est pas sans rappeler, évidemment, Desperate Housewives. C'est assez dingue, d'ailleurs, la ressemblance de cette résidence qui a été trouvée par la production. Donc, tu y débarques avec ton mari, et donc un drame se produit, puisque vous perdez votre bébé. Et donc, là, vous allez trouver les voisins d'en face, en quelque sorte, eh bien... une espèce de chaleur humaine en même temps et un réconfort.
Voire plus,
c'est affinité. Et évidemment, il va se nouer bien beaucoup de choses entre ces deux voisins. Ça va pas être catholique, là, c'est le cas de le dire.
Cette série est folle. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est génial parce que ça sort complètement des codes qu'on connaît de la télé. Alors, il y a l'histoire d'un bébé qui meurt, évidemment. Alors, c'est pas le thème principal de la série, heureusement. Mais c'est vrai que c'est un point de départ qui arrive assez vite et qui est assez violent. Mais qui nous amène, justement, tu as perdu le pire. Donc maintenant, il y a plus de morale. Et donc, c'est vraiment l'inverse de ma mère Agnès. On n'a plus de morale dans cette série. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant pour moi d'aller jouer ça. J'ai pris un malin plaisir à jouer après la manipulation, la fin justifie les moyens, l'obsessionnel. Je me suis régalée à jouer le mi-ange, mi-démon. Mais on l'excuse, elle a vécu le pire drame. Mais c'est sa réaction, c'est « vu que j'ai vécu le pire drame au monde, j'ai le droit de faire ce que je veux.
Ouais, » C'est ça.
Et elle se permet des choses et sans culpabilité. Et elle est pas responsable. Bah non, je suis pas responsable puisque j'ai vécu les pires choses. Donc ce que je fais, c'est normal. Je le fais parce que je veux reconstruire ma vie et je veux ça. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Alors ça, c'est pour mon personnage. Mais la série, elle est inclassable. C'est un thriller sulfureux avec une enquête policière qui fait la trame et tout ça. Bon, voilà, on connaît les enquêtes policières qui font une trame de série. Mais ce qui est intéressant, c'est les rapports humains. C'est le côté soap des rapports humains où tout est extrême. Il se passe des rebondissements sur rebondissements, de trahison, sur manipulation. Il y a aucun personnage qui est sauvé moralement. Et c'est très agréable d'aller faire des trucs atroces, un peu comme dans Desperate Housewives. Moi, j'aime beaucoup Eva Longoria dans Desperate Housewives parce qu'elle était un peu comme mon personnage et tout. Sans la comédie. Alors, on n'a pas trouvé ce ton de comédie en plus. C'est vrai que c'était pas forcément le topo de départ, mais j'aimerais bien. Si on avait pu rajouter la comédie, on aurait été au top, je trouve. Voilà, de ce petit côté croustillant, sulfureux, et on adore détester, j'espère, mon personnage.
Alors, chaque épisode va commencer par une soirée de fête des voisins, oui, qui, on le voit, tourne mal. Plus ça va aller au fur et à mesure des épisodes dans ta maison, et plus on va s'apercevoir qu'on va en apprendre de plus en plus. Et après, il y a un compte à rebours qui se rapproche de plus en plus de cette fête des voisins pour mieux comprendre comment effectivement ce drame a pu se nouer et quel drame surtout se noue. Et c'est ça qui est malin, c'est que jusqu'au sixième, eh bien, on nous tient en haleine.
C'est un peu un cluedo. Qui est mort et dans quelle pièce de la maison, voilà. Avec quelle arme et pourquoi?
Eh bien, on va en parler de tout ça justement. On va aussi continuer à planter un peu le décor de la maison d'en face avec Lionel Bahut qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis en attendant, Julie, t'as une semaine bien bien chargée, on peut le dire, puisque ce soir tu es dans Les Combattantes et demain dans la maison d'en face sur M6. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous et d'avoir fait ce lien entre les deux séries.
Merci beaucoup Alain.
Et on te dit à très bientôt.
À très bientôt.
Et tout de suite un extrait de la maison d'en face juste après Lionel, le réalisateur, nous rejoint.
On va être bien ici.
Bien sûr qu'on va être bien. Livia, ma femme, Stéphane.
On est vos voisins d'en face. Ça va avec Eve?
C'est un peu compliqué ensemble.
Parfois, aller voir ailleurs permet d'aimer se retrouver. Je crois qu'on l'a rappelé bien.
Ah ouais.
On a besoin de quelque chose pour se réinventer, Yanis.
La maison d'en face, c'est l'événement M6. À ne pas manquer, à partir de demain, vous allez pouvoir suivre les deux premiers épisodes réalisés par Lionel Bahut, qui est justement notre invité. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça nous fait super plaisir, Lionel, que vous soyez là, parce qu'on a adoré cette série. On est vraiment, je trouve, dans une atmosphère qui fait évidemment penser à Desperate Housewives, avec toutes ces petites maisons un peu type américaine, avec des jardins non clôturés, dans un espace, un cocon entre voisins, une espèce de huis clos. Et franchement, on a adoré. J'ai trouvé que ça se tient vraiment du début à la fin. Vous allez voir, c'est très addictif quand vous allez avoir les deux premiers épisodes. Si vous avez Salto, vous aurez déjà la suite en intégralité. Je vous le conseille, en tout cas.
Merci. Oui, Desperate Housewives était une inspiration, parce que c'est l'intérêt de ce genre de résidence avec les jardins ouverts, c'est que dès qu'on sort de chez soi, on est tout de suite avec les voisins dans la communauté, et que c'est une des thématiques de la série, puisqu'il y a un rapport très fort entre deux couples de voisins qui sentent et qui se voient tout de suite ce qui se passe de l'autre côté, et ça marche dans les deux sens. D'un côté, le drame, de l'autre côté, des habitudes un peu particulières.
Conjugales particulières.
Des habitudes conjugales un peu particulières. Et il va se passer des choses entre les deux couples, un petit peu sulfureuses, mais que nous, on a essayé de faire humainement fortes. C'est une vraie rencontre entre les deux couples. Nous, spectateurs, on ne sait pas trop qui manipule qui et quels sont les tenants et les aboutissants. Il va y avoir des conséquences, on s'en doute. Mais... avant tout, on part vraiment sur un grand écart, hein. C'est-à-dire qu'on part d'un vrai drame et on arrive à une situation de rencontre un peu particulière. Voilà. Donc nous, à notre position de scénariste avec ma co-scénariste Déborah Adjedge et moi en tant que réalisateur, tout le but était d'essayer de faire ça de la manière la plus fluide possible avec nos formidables comédiens qui ont bien interprété tout ça.
C'est ça que j'ai aimé en fait, Lionel, c'est qu'il y a de tout dans cette série. Il y a du sulfureux, certes, mais il y a de la romance, il y a du thriller, il y a du suspense. On a vraiment tous les ingrédients en fait réunis là.
Exactement, ça faisait partie de l'ambition. Alors dans Desperate, il y avait déjà pas mal de thèmes qui étaient abordés. Alors nous, on est moins comédie que Desperate. Il y avait toujours un petit côté un peu décalé et drôle. Nous, on a ce côté émotionnel. On essaye de pas esquiver des situations difficiles. Et dans la série, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on est sur des thématiques et sur des situations qui sont franchement pas forcément évidentes, qu'on a essayé de traiter le plus finement possible et de la manière la plus juste possible d'un point de vue psychologique.
Alors dans cette série, il y a 6 épisodes, vous avez réalisé les 6, vous ?
J'ai réalisé les 6 et coécrit les 6, oui.
Donc là, il y a un travail, pour le coup, énorme sur 3 mois de tournage, plus après, évidemment, tout le montage. À la coécriture, comment se répartit les tâches, justement, quand on écrit à 4 mains, alors là, comme ça ?
On fait tout ensemble, mais l'un après l'autre. Voilà, enfin c'est comme ça que nous on procède. Donc ce qui est vraiment bien quand on est deux, c'est que voilà, on discute, ma co-auteure Déborah, elle a plein d'idées, on fait le tri ensemble. C'est assez stratégique aussi parce que c'est compliqué d'écrire 6 fois 52 minutes, surtout là, 4 personnages, plusieurs arènes, le lycée, l'intrigue policière, l'intrigue intime qui est très forte. Et donc, il y a un gros travail d'équilibrage. Et l'intérêt quand on est deux, en plus un homme, une femme, ben voilà, c'est d'essayer d'être attentif ensemble.
D'équilibrer les choses.
Et d'équilibrer les choses, voilà.
Quatre personnages, Marc Rushman, Katerina Murino, Thierry Neuvik et Julie Debona. C'est vraiment les quatre personnages centraux, avec d'autres personnages qui vont graviter bien sûr autour. Ces quatre comédiens-là, j'imagine que c'est un cadeau quand on a des comédiens comme ça qui disent oui sur un projet comme ça.
C'est un casting de rêve, franchement.
C'est un casting 4 étoiles, quoi.
C'est un casting 4 étoiles. Il y a des choses qui sont pas évidentes à faire passer dans cette histoire et avec eux, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je suis incroyablement reconnaissant vis-à-vis de mes comédiens qui ont vraiment réussi à porter tout ça avec beaucoup de générosité, beaucoup de finesse, chacun avec leur vision du personnage, chacun en essayant de le porter vers le haut. C'était un vrai plaisir.
Alors Lionel, j'ai pas vu la fin volontairement, hein, même si ça me brûle quand même. Je vais aller voir la fin sur Salto, mais après avoir fait cette interview, pour pas trop en dire, et évidemment à vous aussi auditeurs, mais est-ce que la fin est bouclée ou est-ce qu'on peut imaginer peut-être une fin ouverte vers une éventuelle suite? Est-ce que c'est dans vos ambitions en tout cas de faire une maison d'en face saison 2?
Ah, on serait très heureux de faire une maison d'en face saison 2. Premièrement. Deuxièmement, oui, on n'a pas refusé l'obstacle. Donc, on a vraiment essayé de boucler les intrigues. On pose des questions très nettes au départ de l'intrigue, ce qui s'est passé lors de la fête des voisins. On y répond. Et néanmoins, on a essayé de garder une porte ouverte, effectivement, vers une saison 2.
Alors, ça démarre justement par cette fête des voisins. Chaque début d'épisode, en fait, démarre par cette fête des voisins. On en voit de plus en plus au fur et à mesure de chaque épisode. Sur ce qui se déroule, sur le drame qui se noue sur cette soirée de fête des voisins. Et on repart en arrière au fur et à mesure avec ce compte à rebours qui au fur et à mesure des épisodes se rapproche de cette soirée de fête des voisins. Ça, c'est hyper malin aussi.
Oui, on sait que ça va pas très bien se terminer. Par contre, on sait pas exactement comment ça va mal se terminer.
Mais... pour qui?
Et pour qui notamment? Effectivement, on se doute que certains vont vraiment y perdre des plumes, voire la vie. Mais on sait pas. Voilà. Et donc... on essaye de jouer avec ça et à chaque épisode, parfois certains éléments du teaser, on les retrouve dans l'épisode et au spectateur d'essayer de deviner ce qui va se passer.
Je vous conseille vraiment cette série, La Maison d'en face, c'est demain soir sur M6. Vous allez pouvoir suivre donc les deux premiers épisodes. On aura également le grand bonheur la semaine prochaine de recevoir aussi Katerina Murino et Marc Rushman qui offrent une partition assez dingue aussi dans cette fiction. Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous, en tout cas pour en parler.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt, j'espère.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, le film Touché sera diffusé jeudi sur TF1. C'est un de nos gros coups de cœur cette semaine télé avec la réalisatrice qui est avec nous. On n'a pas l'habitude en tant que réalisatrice parce que c'est son premier film, Alexandra Lamy. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci d'être avec nous. Et t'es pas venue toute seule avec toute une partie de ton équipe. On va commencer par accueillir déjà Vanessa F.C. Caldi qui est avec nous. Bonjour Vanessa.
Bonjour, enchantée.
Qui joue le rôle d'Alix dans le film, si je me souviens bien. Et c'est un film magnifique que tu nous as amené. On a pu le voir en avant-première, évidemment, au Festival de la Fiction Télé qui vient de s'écouler à La Rochelle. Tu es très engagé dans ce domaine-là, on le sait. Mais quand tu as eu cette proposition de réalisation, qu'est-ce que tu t'es dit?
Ben, c'est ce qui est un peu incroyable, c'est surtout c'est le thème qui est venu vers moi. Je suis engagée donc depuis très longtemps, j'ai suivi beaucoup d'associations. Alors d'abord, c'est tiré d'une BD de Quentin Zutchon qui s'appelle Touché. Ce sont des femmes qui sont victimes de violences conjugales, sexuelles, incestueuses et qui se reconstruisent grâce au sport et dont l'escrime. Et en fait, c'est Philippe Bouffard, mon producteur, qui un jour m'a appelé et m'a dit « Écoute, voilà, je monte un département télé, j'ai lu une BD qui m'a bouleversée, j'aimerais que tu la lises. » Donc je la lis, en plus le thème, évidemment, je suis sensibilisée par ce thème, puisque par mon engagement. Et je lui dis « Mais tu me proposais un des rôles ?» Il me dit « Non, non, je veux pas que tu joues dedans, je veux que tu le réalises. » Ah, je dis « Ah, d'accord. » Bon, alors je lui dis « Mais tu sais que je n'ai jamais rien fait, que je n'ai jamais rien réalisé. » Il me dit « Non, mais ta sensibilité, etc., j'aimerais que tu le fasses. » Et puis, je me suis dit « C'est drôle parce que je suis très engagée, c'est marrant, ce sujet vient à moi. » Je me suis dit « Mon premier film, finalement, on met un peu toutes ces tripes dans un premier film. » Je me suis dit « C'est peut-être... » Voilà, ce premier film qu'il faut que je fasse, parce que c'est un sujet qui me, sans faire de jeu de mots, hein, qui me touche, dont je suis très sensible. Et donc, je me suis dit, ben voilà, il faut pas que t'aies le trac, tu vas y aller, tu vas bosser. Et j'allais dire que presque ce film est tiré d'histoire vraie, parce qu'il y avait, dans la BD, il y avait pas, mais on a écrit aussi avec Solène Roy et Quentin, d'ailleurs, hein, Zutchon. On a écrit aussi les personnages qui sont autour, puisque c'est un groupe de femmes, et je voulais que chaque personnage soit ancré. Donc j'ai interviewé beaucoup de femmes, de victimes, avec qui on a beaucoup échangé. J'ai construit mes personnages avec les comédiennes aussi. Vanessa en parlera mieux que moi. Et on a construit comme ça tous ces personnages. Et puis, j'ai aimé cette BD aussi parce que la parole se libère et c'est merveilleux. Mais moi, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui se passe après. On a parlé, d'accord, mais est-ce qu'il y a une possibilité de se reconstruire? Est-ce qu'on peut se reconstruire? Est-ce qu'à un moment donné, on peut déjà se dire, oui, c'est vrai, je suis une victime, parce que parfois, on ne veut pas, on croit que les autres sont victimes, mais pas vous. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais il y a un peu de ça. Et parfois, c'est Andrea qui me disait ça, il faut accepter de se dire que, oui, je suis une victime, et pour pouvoir finalement en sortir. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on peut se reconstruire? Est-ce que c'est possible? Donc ça, je trouvais ça intéressant, parce que je me dis, c'est pas qu'une fatalité, c'est aussi, on peut se reconstruire. Et puis mettre un petit coup de projecteur aussi sur les associations. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, on s'en rend pas compte, mais il y a 10 ou 12 millions de personnes en France qui travaillent dans les associations. Donc ce qui est des chiffres énormes. Alors après, il y a de tout, bien sûr, mais donc ça veut dire qu'il y a plein de gens aussi qui sont prêts à vous accueillir. Que quand vous ouvrez une porte, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Qu'il y a partout, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des associations, il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Et puis, oui, de se dire que c'était possible de se reconstruire. Et puis, j'aimais bien parce que c'était un film, je trouve aussi, qui, ça parle de fraternité. Ça parle de sport, de reconstruction, de finalement il y a des hommes aussi qui sont victimes et peut-être qu'il y a des hommes qui, enfants, ont été victimes puisqu'il y a quand même un enfant sur cinq qui est touché par la violence, donc ça fait des chiffres, donc forcément ils sont touchés, que ça permet aussi de se dire, ouais, la reconstruction, la violence, elle est d'abord physique, elle est dans le corps et c'est long à se reconstruire et c'est dur et on sent qu'elle est, et j'ai des comédiennes merveilleuses qui ont incarné ça comme Mélanie Douté, qui incarne la peur parce que tout ça, ça se passe dans le corps. Claudia Tagbo, qui elle est plutôt dans un corps qui fait ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'elle a des problèmes de dos mais qui ne sont pas liés à une scoliose mais plutôt à ce que elle fait vivre à son corps, c'est-à-dire tout ce que son corps ressort mais qu'elle n'arrive pas à formuler. Le personnage de Tamara, joué par Chloé Jouanet, qui elle est plutôt la boule de feu, elle a plutôt envie de faire mal à son corps, elle a envie de sortir cette violence qui est rentrée dans son corps, et parce que c'est vrai, la violence elle rentre dans le corps, donc parfois on a, selon certaines personnes, on réagit de façon très différente. Donc voilà, je trouvais que ce film était intéressant parce qu'on parle aussi du corps et des traumatismes qu'on a vécu dus à ces violences. Et je trouvais que c'était aussi une façon d'être, alors j'aime pas trop ce mot dire optimiste parce que, mais de pouvoir dire on peut se reconstruire. On peut vivre des choses très douloureuses et on peut se reconstruire. On peut avancer un peu. On peut un jour se dire j'ai été victime. C'est pas une fatalité. On peut en sortir. Mais je vais laisser parler aussi Vanessa parce que voilà, parce qu'on a construit aussi son personnage et puis elle en parlera mieux que moi avec.
Alors qui est-elle, Alix, Vanessa, justement? Présente-la nous un peu. Qui est-elle pour toi?
Alix, en fait, est une femme qui vit des traumatismes, qui vit des violences. C'est une maman, elle a 3 enfants et en fait, elle vient autour de l'escrime. Parce que elle est perdue, en fait. Elle sait pas quelles sont les solutions pour elle, pour se sortir, en fait, de ce qu'elle a vécu ou de ce qu'elle vit encore. C'est un personnage qui est un peu mystérieux. Parce que on sait pas, en fait, quand elle parle, ce qu'elle a vécu vraiment. On sent que c'est un personnage.
Difficile à cerner.
Oui, difficile à cerner. Il y a une personne qui a mis sur Allociné. Alix, c'est un personnage qui est meurtri. Et effectivement, je trouve que c'est assez juste. Mais je suis d'accord, difficile à cerner. Elle est à la fois là, elle sourit à tout le monde, mais en même temps, elle est assez pudique. Et puis, quand elle dit quelque chose, on ne sait pas si elle l'a vécu ou pas vécu. C'est un personnage assez mystérieux. En tout cas, c'est sûr qu'elle souffre. Et moi, c'est un personnage que j'ai adoré. Ma petite Alix est très, très loin de qui je suis, à la fois dans la vie, mais aussi de tous les personnages que j'ai pu incarné dans ma carrière jusqu'à présent. Et quand Alexandra m'a proposé ce personnage, elle m'a dit, voilà, moi je sais que tu peux le jouer, fais-moi confiance. Et évidemment que je fais confiance à Alexandra, toute ma vie je lui ferai confiance, voilà.
Il y a une alchimie folle entre vous toutes.
Oui, c'est vrai. Et cette alchimie, on l'a sentie dès le départ, dès la lecture. C'est-à-dire que quand Alex nous a toutes rassemblées pour qu'on fasse une première lecture, on s'était pas encore croisés, on lit le texte, il était hyper bien écrit, et on sort de cette lecture, on n'avait qu'une envie, c'était de se prendre dans les bras et de se dire, mais qu'est-ce qu'on s'aime. Donc ça y est, le groupe fonctionnait, vraiment.
On va continuer à en parler, évidemment, de Toucher. C'est le film événement qui sera diffusé jeudi soir à 21h10 sur TF1. On va recevoir encore toute une partie du casting pour notre plus grand plaisir dans un instant. On va écouter la bande-annonce. En tout cas, je crois que ce film va marquer les esprits. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Merci à toutes les deux déjà d'avoir commencé cette spéciale avec nous. Merci Alexandra, bravo encore. Je pense que c'est pas fini. On n'a pas fini d'entendre parler d'Alexandra Lamy, réalisatrice.
Merci beaucoup, merci.
Et merci beaucoup à toi aussi, Vanessa.
Merci Alain, merci vraiment pour ton accueil.
Et on revient tout de suite pour notre spécial Touché. On continue dans un instant.
Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez subi des violences. L'objectif de ce stage, c'est de vous libérer des traumatismes que vous avez vécus.
Voilà, vous allez vous mettre deux par deux en position de garde et vous allez juste toucher votre adversaire de cette façon. À toi, viens me toucher à la tête.
Apprendre à votre corps à se détendre et à se sentir en sécurité.
Surprise, maman!
Il sait le pouvoir qu'il a sur vous.
Je veux quoi?
On va trouver une solution. Ensemble. On est les sœurs d'armes.
Arrête avec ça.
Inédit, Touché, jeudi prochain à 21h10 sur TF1.
Allez, on continue à parler de Toucher. C'est notre spécial aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On continue après Vanessa et Alexandra. Eh bien, place à Mélanie Douté et Chloé Joannet. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a planté un petit peu le décor avec Alexandra et Vanessa à l'instant. Et on va continuer à en parler. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de vos personnages. Sujet difficile, des violences conjugales. Et aujourd'hui, ce sujet, voilà, le film a été complètement en standing ovation sur les avant-premières qu'il y a pu y avoir la semaine dernière, notamment au Festival de la Fiction. C'était incroyable l'accueil du public. Comment vous avez vécu ça, toutes les deux déjà?
Bah, c'est vrai que c'est super fort parce que nous, le tournage, c'était déjà il y a un an. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'aime bien passer à autre chose et aussi oublier parce que même si c'était une super expérience, on vit d'autres choses pendant l'année. Et donc, d'un coup, de redécouvrir le film et de voir que les gens, ils sont avec nous pendant cette projection, pendant le film et qu'ils réagissent et qu'ils aiment notre travail, c'est hyper agréable. Et surtout quand c'est des sujets comme ça où ça peut faire la différence pour certaines personnes, ça peut changer certaines choses et donc du coup au-delà de d'avoir kiffé jouer nos rôles, on se dit qu'on a peut-être aussi aidé
et touché le public. Ouais, c'est le but, évidemment, on sait bien. Mélanie?
Bah, c'est vrai que sortir d'une projection de Toucher, quand on découvre le film, c'est compliqué de se voir. C'est pas quelque chose que je trouve très agréable. Et là, en fait, on est très vite rattrapé par l'émotion des gens. Et on se dit, bon, ben voilà, comme tu dis, Chloé, on a fait au mieux notre travail et surtout on a réussi, sans faire de jeu de mots, mais à toucher le public et à avoir un retour comme ça vibrant. Bah, on se dit, ouais, on a une forme, c'est un métier qui est parfois utile. Et là, on a l'impression de toucher à ça.
On va présenter vos rôles? On va parler de Tamara, dit Tam, dans le film aussi, par toutes ses copines. Comment tu la définirais, toi, Tamara, Chloé?
Tamara, je dirais qu'elle est sanguine, qu'elle est à fleur de peau. Je pense qu'elle a besoin qu'on la voie. C'est une petite fille bloquée dans un corps de jeune femme et elle attend qu'une chose, c'est qu'on l'aide, en fait. Qu'on la soigne et qu'on la répare et qu'on s'occupe d'elle. Parce que je pense qu'elle s'est beaucoup occupée d'elle toute sa vie.
On sent qu'il y a une souffrance familiale sur Tamara, qui est très très forte, et des blessures du passé et des non-dits aussi auxquels elle va devoir faire face aussi. Mélanie, on commence d'ailleurs par ton personnage, le film commence vraiment par toi, Mélanie.
Le personnage s'appelle Lucie, j'ai un petit garçon, je suis en train de me séparer du papa, de m'échapper du papa pour être plus exact. Et en fait, le point commun entre nos deux personnages, ou même tous les personnages qui se retrouvent autour de cette thérapie à travers l'escrime, c'est des personnages qui se libèrent. Comme toi, ton personnage, Tamara, il se libère aussi de ce poids, de cette tragédie que t'as connue enfant. Et on va se serrer les coudes là-dedans, et on va s'aimer, se libérer, se soigner, se penser, s'écouter.
Alors, faire un film comme ça, quand on est entouré par Alexandra à la réalisation, quand on est entouré par Andrea Bescon, qui joue le rôle de la thérapeute et qui va vous guider dans cette thérapie, et du maître d'armes, on peut pas être mieux entouré finalement.
Non, on est très bien entouré, on est très aimé. En fait, le plateau d'Alexandra, c'était elle le dit à travers son casting aussi, c'était une famille. En fait, elle a créé une famille. On se sentait aimé, regardé, et on aimait regarder les autres. Il y avait vraiment une vraie tendresse qui accompagnait le plateau.
Oui.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est aussi la semaine qu'on a, en fait,
On suit le parcours de plusieurs femmes, mais surtout de celui de Mélanie, Claudia et le mien. Et donc du coup, on avait chacune notre appartement, nos scènes un peu plus personnelles. Et aussi, il y a eu toute une semaine où on s'est retrouvés à faire que de l'escrime thérapeutique avec toutes les filles dans un gymnase et enfermées pendant une semaine. Et je crois que ça, on l'a fait début-milieu du tournage, je dirais, un truc comme ça. Et en fait, d'être enfermé dans un gymnase à longueur de journée où il faisait chaud, où on faisait du sport, où tout, on était absolument dans nos personnages, ça me rappelle même un peu, ça pouvait rappeler même des cours de théâtre où on sortait jamais du rôle. Et en même temps, on jouait des choses très difficiles. Donc à côté de ça, on avait besoin de se faire des blagues. Et donc Mélanie et moi, on rigolait tout le temps ensemble avec une amie à moi qui s'appelle Salomé, qui est aussi dans le film. Et je crois que cette semaine-là, moi, elle m'a marquée parce que j'avais l'impression de faire partie un peu d'une colo sur un sujet grave, mais en même temps sur un sujet qui compte. Et on quittait jamais nos personnages. Et là, d'un coup, c'est ça a créé une vraie... Reconsolider cette famille dont parlait Mélanie. Et c'était une expérience, je trouve, que assez unique, qu'on vit pas beaucoup. Comme si on partait un peu en résidence, en fait, tous ensemble. Ça nous a tous rapprochés. Et franchement, de faire de l'escrime tous ensemble, déjà, c'était assez exceptionnel. André a été top. Olivier, le maître d'armes, qui est vraiment un maître d'armes dans la vie, a été génial. Ma mère, elle était hyper douce. Elle nous écoutait. Elle continuait en même temps d'apprendre. Et en même temps, elle nous filmait, elle nous aimait. Il y avait quelque chose de très doux, très jovial. Et on savait qu'on était tous là pour faire du bien aux autres. Et que ce film, il fallait qu'il compte et qu'il sauve certaines personnes. Et donc, du coup, je crois qu'on l'a vraiment fait avec amour.
Alors, il y a différentes souffrances qui sont évoquées. Il y a les violences conjugales, c'est le fond, évidemment, mais pas que. Vous verrez ces différentes souffrances en fonction des parcours de ces femmes qu'on retrouve dans le film. Après, surtout la femme, c'est la reconstruction qu'on suit surtout, et c'est ces parcours de reconstruction qui sont parsemés d'embûches. On le voit avec ton personnage, Mélanie, qui est pas simple puisque il va refaire éruption dans ta vie, évidemment, ce mari violent.
Ouais, je pense que tous les parcours abordés dans le film sont compliqués, et tous nos fantômes nous poursuivront et poursuivent les personnages. Et oui, là le mari réintervient dans la vie de Lucie d'une façon extrêmement violente, déjà parce qu'il veut récupérer son enfant, qui est le sien aussi quand même, faut dire la vérité, hein. On est toujours deux à faire un enfant. C'est là où cette sororité et cette équipe d'escrime va faire qu'on va se sentir plus fort et prêt à affronter. En fait, c'est un film aussi qui peut donner des armes, qui peut donner du courage, qui peut donner même le petit déclic qui fait qu'on peut parler. Et parler, c'est déjà se libérer.
Un film qui fait du bien, je vous le dis, c'est jeudi. Ça sera donc à 21h10 sur TF1. Vous allez pouvoir suivre ce très beau téléfilm. Ça s'appelle Touché. Merci les filles d'avoir été avec nous. Mélanie, on te retrouve en DVD, en VOD en ce moment dans Le Temps des Secrets aussi. Très beau film de Christophe Baratier. On a eu le bonheur de te recevoir au printemps avec Christophe. Chloé, des projets?
Des projets. Je démarre la semaine prochaine une série pour Amazon Prime et je suis très très contente. Pour le coup, avec un univers qui n'a rien à voir avec Touché. C'est un slasher qui se passe pendant l'été 98. Je pense que ça va être très rigolo.
Ce sera l'occasion de revenir nous en parler. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous. On se quitte avec un petit extrait. À bientôt.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis très très contente de vous voir. Suivez-moi.
J'ai pas très envie de parler, j'avoue.
Ça tombe bien parce que c'est pas un groupe de parole. Hein? Tout va bien? Steph, tu me dois un café. N'oublie pas. Vous avez appelé l'avocate?
Je vais le faire.
Non, il faut le faire, Lucie. À chaque fois, vous dites ça, mais il faut le faire. D'accord? Là, attends, on va te rappeler. Parce...
Oui.
OK? Et l'appartement que l'association vous a trouvé, il vous plaît?
Oui, merci. Ouais. Il est parfait, Léo est bien. Toi, tu dors bien.
Ouais. Regardez-moi.
Respirez. Allez, c'est parti.
On se retrouve là, changez-vous.
On continue à parler de Touché avec Claudia Tagbo qui nous rejoint avec le personnage de Nicole qu'on va présenter. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai beaucoup aimé ce film, on le disait, avec les filles. Et le personnage de Nicole aussi a quelque chose de particulier, a quelque chose avec une pudeur assez incroyable. Et ça, déjà, bravo Claudia pour ça, parce que franchement, le personnage est vraiment joli.
Mais bravo à Alexandra, hein. C'est elle qui a drivé, c'est elle qui avait le personnage dans la tête, donc qui est venue à moi, une proposition, une très jolie proposition, merci à elle. Et donc bravo si on voit le personnage, si on voit vraiment Nicole est dessinée, c'est parce que Nicole était dans la tête d'Alexandra, donc je n'ai fait que mettre au service de ce que ma réalisatrice avait en tête et au service de l'histoire, tout simplement.
On a l'impression que Nicole, c'est celle qui parle le moins, celle qui s'exprime le moins, qui se libère le moins, au début du moins.
Oui, c'est celle qui parle le moins, qui s'exprime, oui, comme vous dites, et qui parle surtout en celle dont on découvre l'histoire en fait en dernier. Donc oui, elle est plus, j'ai envie de dire, elle est présente mais pudique dans ses moments, dans ses paroles. Sa parole est rare parce qu'elle va plutôt aller beaucoup vers les autres dans ses propositions de nourriture, d'accompagnement, de celle qui veut être l'appui, celle qui dit tu peux mettre ta tête sur mon épaule, voilà, je serai là, je peux te soutenir et tout. Mais en même temps, on connaît pas son histoire. Elle est assez étrange. Elle est vraiment pour le coup très très réservée. Et je pense que c'est celle où la plaie est assez très très profonde. Elles ont toutes les plaies, mais qui est loin de trouver son chemin en fait. Elle a encore besoin de plus des autres, j'ai l'impression. Mais elle a une façon de camoufler, de se cacher.
Et à la fois, c'est le personnage qui amène une petite touche de comédie malgré tout.
Oui, 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 parce que c'est ce que je disais en amont, c'est que c'est celle qui va, de par ses sucreries, que ça soit au niveau des gâteaux, que ça soit au niveau de la cuisine, que ça soit au niveau de sa façon de rire d'elle-même. Voilà, Nicole, quand elle parle la première scène de ce vêtement d'escrime, enfin bref. Donc oui, donc je pense que c'est les couleurs de ce personnage qui ont permis de dire à Alexandra, j'ai envie d'aller vers quelqu'un qui va trouver la rupture au niveau de l'humour et du côté sérieux. Donc oui.
Et ça va être en même temps la meilleure alliée de Lucie.
Ah oui, c'est la meilleure alliée de Lucie. Elle est très étrange quand même au début. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci, Nicole? Elle est très étrange. Limite, on a l'impression que c'est une espionne pour son mari, pour son ex. Mais oui, c'est une grande alliée pour le personnage de Mélanie. Voilà, et je trouve qu'elle elle y va, quoi. Je sais pas, quand elle j'ai pas envie de dévoiler tout le film, mais quand elle dit oui, t'inquiète pas, je vais m'occuper du gamin pour qu'il aille chercher pour qu'il aille voir son père et tout, je trouve que elle y va avec sa force, quoi, avec sa, elle est prête à se battre déjà. S'il fallait, t'inquiète pas, il va rien t'arriver, un peu genre de garde du corps, quoi. Je trouve ça chouette, elle est très empathique, très
Ouais, justement, par rapport à sa façon d'être, on oublie presque d'y demander comment elle va, elle.
Oui, parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement solaires, tellement toujours à dire comment vous allez, qu'on oublie, eux, de leur poser la question. Ça existe. J'en connais des gens comme ça, que des fois, il faut prendre le temps de les regarder, de les écouter aussi. On oublie qu'eux aussi peuvent être en souffrance. C'est vrai.
J'imagine que le tournage qui s'est déroulé sur une semaine quasiment, vraiment en immersion dans cette thérapie d'escrime avec le maître d'armes, avec Andrea, ça a dû vous souder tout ensemble, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'on disait avec Mélanie à l'instant et avec Chloé.
Oui, en tout cas, on a eu vraiment la chance dans le plan de travail. C'est-à-dire qu'on a eu une intelligence d'une production, une intelligence d'une équipe, parce que quand on dit plan de travail, c'est la première qui le fait, qui fait le plan de travail. Donc, de nous mettre vraiment en immersion au fur et à mesure dans le film. Donc, effectivement, quand on arrive dans ce bloc, dans cette association, et qu'on est là toutes à parler de nos douleurs, toutes à pouvoir l'extraire via le maître d'armes et tout, on a eu énormément de chance. Ça nous a soudés. Parce que dans ce lieu, ça aurait pu être une catastrophe parce qu'on était enfermés, en fait. Faut pas se mentir, pendant 8 heures, à faire toutes les scènes dans l'association et tout. Et c'est de là qu'a eu le lien dans les personnages et en plus le lien avec les comédiennes. Ça a été vraiment un vrai bloc. Là, ça nous a vraiment soudés et dans l'histoire et en dehors dans notre façon de travailler.
Une histoire d'amitié, j'ai l'impression, qui s'est créée entre vous toutes aussi. C'est ce qu'on disait avec Alexandra tout à l'heure. On n'en ressort pas indemne, et à la fois avec des amitiés fortes, une histoire forte d'un tournage comme celui-là.
Ah oui, oui, on n'en sort pas indemne. On est touchés. On est le titre le porte bien. On est. J'ai vraiment envie de dire que moi, je trouve que le sujet est tellement fort en soi qu'il faut juste essayer d'être à la hauteur. Et on a eu vraiment la chance de rencontrer une femme comme Alexandra Lamy qui était dans une intelligence de travail, une intelligence de raconter une histoire, mais de raconter une histoire, de la raconter à son point de vue, vraiment. Et ce qui fait que, comme c'est une femme qui est solaire, qui est intelligente, qui est douce, qui est lumineuse, qui est généreuse, je trouve qu'on le voit dans le film. Son film lui ressemble. C'est-à-dire que ce même sujet, vous le donnez à quelqu'un d'autre, ça donne pas la même chose. Et le film ressemble vraiment à Alexandra. vraiment. Et du coup, effectivement, on est heureuse de se retrouver, ne serait-ce que pour défendre le film, ne serait-ce que dans la vie, à se croiser. Demain, quand il y aura d'autres projets, si je sais qu'il y a Mélanie Douté, ben j'y viens avec les yeux fermés. Chloé, je viendrai avec les yeux fermés parce que ça crée vraiment un lien avec toutes ces femmes. Moi, je les connaissais pas parce que Alexandra, Mélanie et Chloé se connaissaient. Donc moi, j'arrive, c'est la pièce rapportée et j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une famille. Donc je suis plutôt très heureuse.
Et puis c'est chouette aussi, moi je connais Claudia Tagbo sur scène. On connaît Claudia Tagbo, la grande rigolote, dans plein de films comme les C'est quoi, cette famille, etc. Et là on découvre une autre facette de Claudia et de ce qu'elle peut montrer en tant que comédienne. Et ça c'est vraiment chouette, quoi.
C'est toujours chouette, là, pour notre métier, de pouvoir se traverser. C'est un mot qui est un peu trop fort, mais de pouvoir changer de couleur. Donc effectivement les gens n'ont pas eu beaucoup la possibilité de me voir dans ce genre de couleur. J'avais déjà fait dans Le Temps des Égarés pour Arte et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de me voir là-dedans, mais ça fait aussi partie de mon métier, j'ai envie de dire. Et moi je ne rêve que de ça, de changer de tout le temps de case, de ne pas être enfermé seulement que dans un thème. Donc c'est plutôt agréable que il y ait des gens qui pensent à toi pour venir dans des trucs plus j'ai envie de dire plus noirs. Donc c'est cool.
Il y a des projets, Claudia, pour la suite?
Oui, il y a des projets. Donc, il y a des projets qui vont sortir. Donc, j'ai un film avec Lovis Corniave qui s'appelle Tête givrée, qui va bientôt être sur tous les écrans de France et de Navarre. Et j'ai ma série Le Crime lui va si bien sur France 2.
Tournée en plus en Charente, c'est dans notre région.
Exactly, pas très loin, avec des partenaires et des comédiens de la région. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va être en diffusion, je pense, début 2023. Et puis, sinon là, je viens de finir de tourner le film de Leïla Sy qui s'appelle Yo Mama pour la Gaumont. Donc voilà, il y a des projets qui arrivent encore, mais je fais partie de ceux qui disent « Tant que tu n'as pas commencé, bah, tu te tais.
» Bon, en tout cas, Le Crime lui va si bien, c'est bientôt. Évidemment, le retour sur France 2, ça cartonne en plus. Donc voilà, on continue évidemment cette belle série. Et puis Touché, c'est jeudi et c'est à 21h10 sur TF1, ne le rate pas. Bien évidemment, merci beaucoup Claudia, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous, prenez bien soin de vous et j'espère que le film va vous plaire et puis que vous allez continuer d'en parler à la fin, à la maison, quand vous avez fini de regarder.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on revient dans un instant avec Christian Carion et la productrice du film Une belle course, on va pas s'ennuyer, notre deuxième coup de cœur ciné arrive dans un instant, hein, tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Y'a trop de pourquoi c'est tendu, ça joue des points et des regards, y'a que du stress dans ta rue, étrange humain sur les trottoirs. Toi, t'es pas fort à la baston, non tu sais pas trop qui croire. Ouais, la ville est froide comme un glaçon, et dans ta tête c'est le brouillard. Le succès la win, lire entre les lignes, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Les pensées défilent. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais le fil, fais vite. T'as beau compter jusqu'à 3, rien ne bouge dans le déco. Dans un océan de pourquoi, toi t'es mené en bateau. Dès que l'ombre de toi-même, tu cherches un sens à la vie. Ta vie, c'est n'importe quoi. T'as perdu tout ce qui t'anime. Les choix qu'on dessine, la joie et le spleen. Y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand les pensées défilent. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Quand tu refais le fil, fais vite. Fais-le vite, fais-le vite.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné est sans conteste cette semaine consacré au film Une belle course, un très beau film qu'on a eu la chance de voir au festival d'Angoulême en août dernier. Son réalisateur, qui devient habitué de l'émission après Milestone il y a quelques mois, il est de retour parmi nous, Christian Carion, bonjour.
Bonjour.
Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa productrice aujourd'hui, Laure Hirman. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors vous produisez tous les deux en plus, hein. Vous êtes tous les deux producteurs du film, Christian à la réalisation. Une belle course, c'est une fois de plus l'occasion de réunir ce magnifique duo qu'on a pu avoir dans la Ch'tite Famille par exemple, Danny Boone et Lynn Renault, avec une histoire magnifique. Comment est venue l'idée de cette histoire d'abord? Déjà, qui en a eu l'idée? Laure ou Christian?
En fait, c'est un scénario qu'on m'a proposé au tout départ, qui m'a beaucoup touché. J'ai eu envie de le reprendre pour le réécrire un peu à ma main, je dirais. Il y avait des producteurs attachés à ce projet, et puis l'arrivée de la première pandémie, ils ont pris peur, ils ont eu des difficultés, mais finalement, avec Laure, on tenait à ce projet, et donc on a récupéré les droits, comme on dit, pour pouvoir le mettre en production nous-mêmes, puisque les gens qui portaient le projet s'en allaient quelque part. Et donc, et puis Dany est arrivé, et c'est vrai que moi j'étais ultra excité à l'idée de réunir une fois de plus ces deux-là. Je suis moi-même issu du Nord, donc il y a une espèce de ch'ti connection avec Lynn, Dany et moi. Et donc, on a mis en production en 2021.
C'est un peu une histoire de famille, tous les deux quand même, aussi cette coproduction et cette histoire, Laure. Hein.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes mariés femmes dans la vie. On a créé une société de production en 2007, l'année où on s'est également mariés. Et nous avons commencé à produire nos films en délégué à 100% pendant la pandémie, donc avec un premier film, My Son, et ce deuxième film, Une belle course.
Une belle course, ouais, effectivement. Alors, on va planter un petit peu le décor de cette belle course, puisque c'est l'histoire de Danny Boone, qui est chauffeur de taxi, qui est appelé pour une course. On lui dit juste qu'il a une belle course qui l'attend. Alors, pour un chauffeur de taxi, une belle course, c'est une course qui va durer longtemps. C'est-à-dire qu'il va faire tourner le compteur un petit moment. Et donc, en arrivant, il s'aperçoit qu'il a affaire à une femme de 93 ans, qui, lui, ne discute pas et ne parle pas beaucoup, qui elle est complètement le contraire et est une vraie pipelette, et va commencer à lui raconter son histoire. Et c'est là évidemment que tout se corse, parce qu'on va partir dans le passé, on va partir pendant la guerre, on va s'apercevoir que cette femme a une histoire incroyable à raconter finalement, riche d'enseignements et vraiment qui met une émotion. On a vu le public avec une émotion très palpable.
Oui, c'est cette histoire de cette dame qui ne peut plus rester chez elle, qui doit se rendre, étant sans famille, se rendre dans un EHPAD, et elle appelle un taxi pour ça. Et en gros, elle lui explique qu'elle n'est pas très pressée d'arriver. Et surtout, elle lui demande de repasser par des endroits dans Paris qui ont compté dans sa vie et qu'elle veut revoir. Et c'est l'occasion pour nous de voir ces endroits et surtout de voir ce qui s'est passé à l'époque. Dans les années 50, 60, on découvre un destin, oui, une vie particulière, où elle a dû lutter contre un certain nombre de choses. Et petit à petit, le personnage de Dany est comme le public, il écoute et il change en écoutant cette vieille dame. Et finalement, ils mettent un temps fou à arriver à cet EHPAD, et c'est tout le temps où s'écoule pratiquement le film.
200 € au compteur. Vous allez voir, c'est le temps du film, évidemment. Mais vous allez voir que vous êtes complètement embarqué dans cette histoire incroyable. C'est aussi l'occasion de toucher de près le féminicide dans ce film. C'est un sujet qu'on s'aperçoit qu'effectivement, que c'est pas d'hier. Le combat n'est pas d'hier.
C'est malheureusement une vieille histoire. On avait récupéré beaucoup de témoignages de femmes battues qui expliquaient qu'elles étaient d'abord toutes tombées amoureuses d'un homme avant de subir les coups. Et Lynn m'avait dit aussi, moi, mon personnage ne peut pas tomber amoureuse de n'importe qui. Donc le rôle que finalement interprète Jérémy Laheurt était un rôle délicat, parce que il fallait qu'on ait d'abord l'illusion d'un couple qui allait bien fonctionner avant que ça bascule dans autre chose. Et j'avais à cœur de construire, au fur et à mesure que le taxi s'enfonce dans Paris, nous, on s'enfonce dans le passé de Lynn Renault. Et grâce à Alice, qui joue Lynn Renault jeune.
Alice Isaz, qui est incroyable, qui est vraiment chouette.
Qui est une actrice magnifique. Elle nous donne à voir en chair et en os ce que raconte Lynn. Et c'est ce qui touche le personnage de Dany. C'est aussi un film sur l'écoute des autres, hein, l'écoute de nos aînés.
Laure, le producteur n'est pas forcément aussi souvent sur le tournage que le réalisateur. Quand vous avez vu les rushs au fur et à mesure, que vous avez vu cette histoire se monter au fur et à mesure aussi du montage, qu'est-ce qu'on ressent ?
Déjà, tout de suite, on voyait le bonheur de tous d'être sur ce plateau. Ça se ressentait vraiment à l'image. Les choses étaient fluides et les images très prometteuses. Donc, moi aussi, dans mon bureau, loin du plateau, j'étais également heureuse.
Il y a eu combien de jours de scène en taxi ?
Je sais qu'on a tourné le film au total en 6 semaines. 6 semaines, et je pense qu'on peut dire qu'en gros, il y a 60% contemporain, donc en taxi, et 40% des souvenirs, à peu près.
En costume, etc. Est-ce qu'il y a une scène qui ressort particulière, qui pour vous, vraiment, à la mise en scène, il y a quelque chose qui s'est passé ?
Je dirais que moi, j'ai beaucoup aimé, parce que c'était une scène qui n'était pas au scénario et qui est venue... Parce que le matin, en fait, je tournais les souvenirs avec donc Jérémy Lahert et Alice Izaz. Et puis l'après-midi, c'était la période contemporaine avec Dany et Lynn Renault. Donc les acteurs ne se voyaient pas entre le passé et le présent. Et j'ai eu envie, à un moment donné, d'asseoir à l'arrière du taxi à la fois Lynn et Alice, qui est Lynn plus jeune, quoi, pour voir. Et j'ai mis dans le coffre, hein, pour que vous ne le voyez pas, un petit appareil qui diffuse de la musique. J'ai lancé la chanson que j'adore de Dinah Washington, A Bitter Earth. Et j'ai laissé les actrices jouer ce moment. Et ce que fait Lynn, et ce que font Lynn et Alice, comment elles se regardent, comment elles se prennent la main, comment Alice caresse la main de Lynn. Ben là... Là, je me suis dit, je suis content d'avoir eu l'idée parce que elles me l'ont transcendé. Donc ça, c'est un moment magique. J'adore comment Lynn revient marcher dans l'appartement des années 50. Elle ne voulait pas faire. Elle me dit, c'est un appartement où j'ai souffert, je ne veux pas revenir là. Et je lui dis, oui, mais Lynn, il est temps de faire la paix avec tout ça. Elle me dit, ah, si c'est pour faire la paix, je veux bien marcher. Et on l'a laissé déambuler dans l'appartement avec une caméra seule. J'ai encore diffusé de la musique parce qu'elle était sensible à tout ça. Et je l'ai laissé faire. Et ce qu'elle fait dans l'appartement, les choses qu'elle touche, c'est du Lynn Renault XXL.
Ouais, c'est assez incroyable. Laure, on termine justement par votre scène à vous, peut-être qui vous a marqué. Ça peut être la même, hein.
Moi, j'aime beaucoup. Non, je vais parler d'une autre scène. J'aime beaucoup la scène où, à la fin, Lynn et Dany se prennent par le bras et remontent l'avenue ensemble.
Je lui demande quand même. Hein. Vous pouvez me prendre par le bras et c'est très très beau aussi cette scène-là. Oui.
Tout à fait.
Et on sent tellement entre ces deux acteurs quelque chose qui se connaissent par cœur. On voit toujours l'œil coquin rieur de Lynn. C'est assez dingue. Merci vraiment beaucoup de les avoir mis en scène une nouvelle fois de façon aussi belle, en tout cas. Avec, à partir de comédiens, on disait Jérémy Lahert, Alice Izaz, Gwendoline Hamon, qui, ça sera sa seule occasion, certainement, dans sa carrière, de jouer la maman d'Lynn Renault. Voilà. Mais voilà, vous allez voir vraiment une belle course. C'est le film à ne pas manquer, mercredi, dans les salles. Je vous le conseille. Merci beaucoup, Christian. Merci, Laure, d'avoir été avec nous.
Eh bien, bon film et à bientôt.
Merci.
Et tout de suite, la bande-annonce, on écoute.
Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez à klaxonner comme ça ?
Je suis prête. Avenue de Chavannes à Courbevoie.
Vous traversez tout Paris, vous êtes au courant ?
Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez ?
C'est rien, ouais. 80.
Charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement.
Wow, attends!
Ça vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes?
C'est pas notre chemin.
Oui, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir de recevoir l'équipe du film Jumeaux, mais pas trop. Ahmed Silla, Bertrand Huskla, les réalisateurs, Pauline Clément. Tout le monde sera là pour la sortie de ce très beau film au cinéma. Nous aurons également le plaisir de recevoir Géraldine Nakache pour la sortie du film Vacances. Béatrice de Haboulé et Sonia Roland également seront de la partie pour le grand retour de Tropique Criminel.
Le rendez-vous des stars. c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.